Donc on voit voilà, qu'il y a ces deux projets qui sont sur des modes différents, donc à Lyon plutôt du management de la mobilité individuelle, à Rabat plutôt la mise en place d'un transport de masse, mais qui donne lieu aussi à la mise à disposition d'une information qui s'est déclinée de manière personnalisée, donc à travers une application mobile. En termes de données, donc de la même manière que tout à l'heure, on a à la fois des ressemblances et puis des divergences. Donc on a des systèmes de transport collectif qui sont différents. Donc à Lyon, on a voilà, un métro, tramway et un réseau de bus principalement, avec donc d'autres systèmes de type vélo, autopartage, en libre-service, voiture en libre-service, des plateformes de covoiturage qui se développent également. À Rabat, on a donc un tramway, un réseau de bus et également des systèmes de grands taxis, donc sur lesquels je reviendrai par ailleurs, mais qui sont des systèmes en fait qu'on pourrait comparer à des systèmes de transport à la demande, donc avec des véhicules qui partent une fois qu'ils sont pleins pour aller très rapidement. Et donc qui ont des lignes semi-régulières, donc c'est aussi un mode d'organisation particulier et un mode de planification assez particulier qu'il n'y a pas à Lyon. En termes d'équipement automobile également, ça fait une grande différence puisqu'on est sur 80% d'équipement automobile à Lyon avec une courbe assez stable et même enfin, voilà, une stagnation de la courbe et une baisse de l'usage de l'automobile en centre-ville. Alors qu'à Rabat, on est à 20% d'équipement et une dynamique d'équipement très forte depuis les dernières années, notamment de la part de la classe moyenne qui se développe au Maroc. En termes de niveau de connexion Internet, pour le coup, là, on a des convergences avec dans les deux agglomérations, trois quarts d'internautes quotidiens et 90% sur mobile. Donc, comme l'a dit Jérémy tout à l'heure, il y a une différence, c'est qu'à Rabat, le passage s'est fait directement de la non-connexion à la connexion mobile, donc avec une prégnance très forte en fait de la connexion mobile. Voilà, donc je vais passer maintenant aux perceptions en fait que j'ai pu recueillir autour de la Smart City de la part des résidents de ces deux agglomérations. Alors en montrant d'abord que la Smart City peut être perçue comme une ville venue d'ailleurs. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez frappant. Dans les deux agglomérations, on avait très rapidement l'évocation de villes étrangères. Donc pour au Maroc c'était très souvent l'Europe et puis en France c'était plutôt l'Asie, les États-Unis, donc qui apparaissaient comme deux pôles plus avancés dans la numérisation des pratiques. Voilà, donc avec quelques citations, donc là c'était à Rabat, donc de la part d'une personne qui avait vécu un petit peu en Indonésie et qui disait voilà, alors Google Maps en Asie, tout le monde les utilise, tu ne demandes rien à personne, c'est Maps et c'est l'application qui te montre, ici j'ai remarqué que personne les utilise, on est encore en retard. Il y a un proverbe au Maroc qui dit celui qui a sa langue ne se perd pas, et donc voilà, il y avait vraiment un décalage perçu entre les potentialités très utilisé ailleurs et puis une tradition locale qui était plutôt basée sur l'oralité et donc il y avait ce décalage là qui était souligné et donc voilà et puis il y avait également cette perception de décalage là mais sur un mode plutôt défensif, c'est-à-dire une autre personne me disant maintenant on est en mode connecté, nous aussi on a la 4G. Donc voilà, donc l'idée aussi que le numérique faisait pleinement partie de la vie quotidienne, mais pour autant pas forcément dans les pratiques de mobilité donc de la même personne. Donc c'est-à-dire le numérique oui, mais par contre en termes de pratiques de mobilité, c'était pas forcément adapté. Donc comme je le montrerai par la suite, on avait également l'idée d'anticipation, d'innovation technologique, donc qui ne font pas encore partie de la vie quotidienne, mais en prenant en compte les impacts sur le mode de vie. Donc là, par exemple, c'est une citation d'une personne de Lyon qui me disait, voilà, qui imaginait remplacer sa voiture par un genre de taxi, mais avec une voiture, éventuellement sans chauffeur, des trucs qui viennent tout seuls, qui vous attendent. Je lis un peu des articles là-dessus, c'est l'utopie, mais l'utopie, quelquefois, ça se transforme vite en réalité. Et donc, suivait, en fait, dans la suite de son discours, toute une mise en situation très concrète où il disait, voilà, j'aurai pas de voiture, j'aurai pas d'assurance, je paierai pas de révision, machin, ça me coûterait moins cher, ça me coûterait certainement plus cher au niveau d'un déplacement, mais au global, ça me... il y aurait peut-être moins de voitures, au même moment de circulation. Donc on voyait, on percevait l'idée, voilà, d'un discours sur donc le terme d'utopie qui était utilisé, mais en même temps une mise en situation très rapide sur et vraiment un calcul en fait des impacts sur le mode de vie. Voilà. Et par contre, on avait. Donc ça, c'était une partie de l'imaginaire en fait qui m'a marqué en fait dans les discours recueillis. Et par contre, un autre aspect intéressant, c'était un décalage entre la connaissance des services, donc des services numériques d'aide à la mobilité, notamment d'informations sur mobile, et leur utilisation. Donc d'une part, on a donc à Lyon notamment, on a eu toute une communication institutionnelle qui a accompagné donc la politique de centralisation, d'ouverture des données, de lancement de nouveaux services, notamment le service Optimode, donc de la collectivité, qui est donc particulier par rapport aux autres services qui ont pu se développer autour de l'ouverture des données. Et donc dans un contexte de multiplicité des services, de concurrence en fait entre applications, entre opérateurs, on avait un certain décalage, donc une connaissance mais pas d'utilisation forcément. Donc avec une personne qui se déplace principalement à vélo, qui me disait en me parlant donc du calculateur d'itinéraire du Grand Lyon, j'ai déjà vu, ça fait plusieurs fois que je vois qu'il y a le site Onimove Lyon, mais j'ai jamais essayé, je sais pas si on peut comparer transport en commun versus vélo. Donc voilà, donc un décalage en fait entre la communication institutionnelle qui est faite, donc finalement il y a un objectif qui est rempli, c'est que les personnes avaient entendu parler du service, mais ça ne signifiait pas qu'elles l'utilisaient et qu'elles comprenaient en fait en quoi il pouvait être utile à leurs besoins particuliers. On avait aussi ce qui ressortait beaucoup, l'impact des conseils de proches. Et ça, c'est quelque chose qui avantage en fait des plateformes de type Waze, par exemple, qui a une politique de community management qui est assez développée. Pour inciter en fait des personnes à se mettre à utiliser l'application, puisqu'on voit un utilisateur très occasionnel de Waze qui me dit voilà, ben quand j'ai mon téléphone, c'est ma fille, non c'est mon gendre, qui m'en avait parlé en me disant ouais, il est super bien parce que dès qu'il y a un bouchon quelque part, on peut le signaler, et lui tout de suite il vous donne un autre itinéraire, moi je l'utilise pas trop. Donc voilà, on a ce côté conseil, ce réseau social familial qui vient comme ça jouer sur la diffusion de nouveaux services, mais pareil, pas vraiment d'utilisation concrète par la suite. On a également un phénomène qui va être l'utilisation d'une partie des fonctionnalités seulement. Donc en général, ça va être plutôt, en tout cas dans ce que j'ai pu recueillir, plutôt autour de l'information spatiale. Donc pour aller à un endroit qu'on ne connaît pas et pas forcément sur l'information en temps réel, qui est pourtant la fonctionnalité la plus avancée des applications mobiles, donc que ce soit Waze comme on en parlait ce matin, ou par exemple des calculateurs destinés à multimodaux qui vont faire de la prévision en temps réel à une heure, donc de manière très, très rapprochée dans le temps. Donc ce qui est ressorti, et ça c'est aussi un point de divergence intéressant par rapport à ce qu'a dit Antoine ce matin, c'est que quand on regarde les utilisateurs de Waze, donc un graphique montrait voilà, que l'idée était de les utiliser au jour le jour, d'utiliser l'application au jour le jour pour optimiser son trajet. Et moi, dans ce que je vois dans les entretiens que j'ai pu recueillir, c'est plutôt l'idée d'utiliser des applications hors du contexte familier, donc que ce soit le contexte familier, les trajets qu'on a l'habitude de faire, ou dans une ville où on est étranger, où on se sent pas forcément familier. Et donc, au bout d'un moment, une fois qu'on a ces points de repère, de cesser en fait d'utiliser l'application. Donc, c'est peut-être deux modalités en fait dans un temps plus ou moins long d'utilisation des applications. Donc, une utilisation intensive pendant une certaine période, et puis peut-être une fois que la confiance s'installe, ne plus forcément les utiliser. Donc là, j'ai mis en exergue une citation donc qui est intéressante parce que pareil, ça met en jeu la différence entre contexte familier, habituel et non familier, et puis aussi entre oralité et numérique. Donc voilà, la personne dit qu'au Maroc, donc le fait d'utiliser des applications pour se repérer, pour se géolocaliser, pour l'itinéraire, c'est une pratique qui s'installe de plus en plus parce que les gens sont de plus en plus dotés de ces portables. Quand tu ne connais pas, tu as recours à ton portable, mais à Rabat, non. Tu baisses ta vitre et tu te demandes où c'est. En général, le contact chez nous, c'est facile. Même à Salé ou Témara, on ne va pas être coincé. Donc, c'est les deux villes limitrophes. On ne va pas être coincé. C'est des villes voisines et tu as tes repères dans un quartier, un hôpital, un cinéma. Donc, voilà, c'est un peu l'idée de numérique quand on n'a pas du tout de point de repère. Alors que dans un contexte plus familier, il va être peut-être plus facile de se baser sur les points de repère qu'on a déjà. Il y a également une différenciation que j'ai pu observer et qui permet effectivement de classer un petit peu mon corpus d'entretien entre deux types de personnes. Des personnes qui vont considérer que le numérique c'est une activité à part entière et qui va être plutôt chronophage, avec des personnes donc aussi bien à Lyon qu'à Rabat qui vont me dire voilà, non, j'utilise pas le portable, il y a beaucoup de choses à voir dessus. Tu vas y passer trop de temps. Si tu veux tout voir, tu vas y passer trop de temps. Et d'autres personnes qui vont plutôt expliquer que non, au contraire, donc comme pour l'exemple de Waze ce matin, ça leur permet, en fait, ça se superpose à toutes les activités de la vie courante et ça leur permet d'optimiser un certain nombre d'activités. Alors, je fais assez vite puisque j'ai été un peu trop longue. Donc, autour de limites et d'obstacles de la Smart City, ce que j'ai pu aussi voir, c'est des inquiétudes et l'idée de nouvelles compétences à maîtriser qui viennent en fait bousculer des habitudes ou des arrangements qu'on pouvait déjà avoir, même en cas de difficulté à s'informer, même en cas d'incertitude en fait liée au déplacement. Et donc avec l'idée que ça demande un effort cognitif supplémentaire. Donc là, c'est une personne, les citations viennent d'une personne qui considère, donc qui est jeune, qui fait des études universitaires et qui est dotée d'un smartphone et qui considère voilà, qu'il y a des limites en fait. Et donc il y a certaines personnes qui, parce qu'elles ont ces équipements, ces compétences, vont pouvoir très facilement s'adapter à de nouveaux services d'information qui n'existe pas encore, comme je disais, à Rabat sur tous les modes de transport, mais que d'autres, pour d'autres, ce sera quasiment impossible. Et on a également des limites à la numérisation qui sont perçues donc, par les personnes dues au contexte spatial. Donc il y a une personne qui disait, ici à Rabat, c'est en travaux tout le temps, il y a beaucoup d'imprévus, ce serait impossible en fait, d'avoir des prévisions en temps réel pour prévoir nos déplacements. Nous, on est habitués en fait à faire face à des incertitudes autour de ça, et c'est pas le numérique qui va venir résoudre en fait ces problèmes-là qui sont à la fois habituels et nouveaux jour après jour. On a aussi des limites modales et territoriales qui se dessinent. Donc avec comme on disait donc des périmètres en fait des applications qui sont dus à la compatibilité des bases de données, à l'interopérabilité de ces bases. Et donc là c'est un exemple lyonnais, donc d'une personne qui vit en périphérie de Lyon et qui explique que qu'en fait ça demande un effort certain en fait d'aller par exemple chercher de l'information sur les transports collectifs à Lyon, que ça reste compliqué quand on est hors du périmètre du Grand Lyon où il y a, donc, comme on disait, des bases de données harmonisées, et que donc c'est aussi un frein supplémentaire au fait de prendre les transports en commun. Voilà, donc je termine, hein, c'est ma dernière partie. Donc l'idée c'est que malgré tout, on a des pratiques d'information et de coordination qui se mettent en place, mais qui ne sont pas forcément basées sur des technologies très très avancées, et principalement en fait elles sont basées autour des téléphones mobiles classiques et d'appels ou de messages simplement entre deux personnes. Donc il y a l'idée, alors tout d'abord, voilà, en termes d'information, il y a l'idée de compter sur soi, donc sur ses points de repère, les points de repère connus. Donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans la littérature sur d'autres cas d'études. L'idée que l'effort en fait à faire pour rechercher une information la plus développée possible serait tellement important qu'on a tendance à faire des raccourcis et à aller au plus simple en fait, à ce qu'on connaît déjà et à compléter au coup par coup cette information. Il y a l'idée de compter sur les proches, donc avec du covoiturage entre connaissances qui se développe dans les deux agglomérations, notamment dans le périurbain lyonnais. Et alors à Rabat notamment, l'idée de compter sur les professionnels, donc de conclure des arrangements en fait avec des services publics, enfin publics dans le sens collectif, donc à donner rendez-vous à des taxis ou à donner rendez-vous à plusieurs à des taxis collectifs qui permettent en fait de mutualiser des déplacements et quasiment en temps réel. Donc là la citation montre voilà que 10 minutes avant on peut appeler la personne et puis ça permet en fait d'améliorer un trajet qui en bus serait beaucoup plus aléatoire. Sachant oui que c'est pas forcément donc elle dit voilà c'est pas trop cher non plus, mais ça reste une fois et demie plus cher qu'un déplacement en bus. Et donc forcément c'est aussi une des limites sociales et territoriales de cette pratique là. Et on a tout de même une forte demande de plus de pouvoirs publics et de plus d'infrastructures, mais aussi de coordination des services existants. On a notamment à Lyon la perception qu'il y a une multitude de services, qu'il y a une multitude de sources d'informations, mais pas forcément une attention portée à l'expérience utilisateur avec, au fil d'un déplacement, de multiples petits trous d'informations où on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc par exemple, voilà, en termes de stationnement, en termes de rupture de charge, du fait de devoir se déplacer avec des bagages, des choses comme ça. Et donc voilà, la personne dit ça laisse une solution un peu inaboutie, ça nous laisse un peu sur le guet. Et c'est vrai qu'on a un peu cette impression-là, c'est que beaucoup de choses se développent, mais il y a un effort de coordination qui est finalement très fin, et qui est aussi le plus difficile à faire de la part des pouvoirs publics. Alors, voilà, je conclue rapidement. Donc, j'ai pas forcément présenté à ce stade une analyse comparative entre les deux villes. J'ai présenté un petit peu à la fois des éléments saillants, donc de Lyon et de Rabat, mais parce que l'analyse est en cours. On a un discours autour de la Smart City qui est en partie repris par les citadins, avec un discours autour de donc à la fois d'une utopie qui viendrait résoudre un petit peu les problèmes, mais en même temps recontextualisé dans les configurations concrètes en fait des déplacements, donc autour de l'idée de prix, de tarifs, d'équipements nécessaires, de compétences aussi nouvelles à acquérir. Il y a aussi des limites et des obstacles à cette Smart City. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que, voilà, en comparant deux villes qui ont des systèmes de transport très différents, on se rend compte que oui, il y a une circulation de services d'aide à la mobilité au niveau international. On a un service d'information qui s'est mis en place sur le tramway à Rabat, mais parce que c'est le système de transport, enfin c'est le réseau de transport qui est similaire à ce qui peut se faire en Europe. Mais par contre, autour des autres services de mobilité qui vont être très spécifiques, on ne va pas retrouver, on va pas retrouver forcément d'informations numériques et même de systèmes d'information suffisants permettant de répondre aux incertitudes des usagers au quotidien. Il y a aussi une distance entre ce qui est reconnu comme innovant, c'est-à-dire qu'on va citer des services qui sont perçus comme innovants, comme numériques, mais on ne va pas forcément les utiliser au quotidien. Et ce qui ressort aussi des discours que j'ai pu recueillir, c'est l'idée d'une expertise des citadins qui n'est peut-être pas assez mobilisée, l'idée d'apprentissage, de flexibilité basée sur une certaine expérience des villes et sur une habitude, et qui pourrait être mobilisée davantage en fait dans la conception même de systèmes d'information numérique.